La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Cap sur le pôle sud, à la une de la science. Aujourd'hui, l'avenir du continent blanc.
À l'extrémité sud de la Terre, les plus vastes océans bordent un continent isolé, l'Antarctique. Ici, le rivage est différent de tout ce qu'on peut voir ailleurs. Des bancs de glace s'étendent sur des kilomètres jusqu'à la mer, cachant la surface de la Terre, se dressant comme une muraille face aux navires qui en approchent. Ces glaciers et ces montagnes couvrent une superficie légèrement supérieure à celle de l'Europe. C'est le continent le plus élevé du monde.
Voilà comment on parlait de l'Antarctique il y a 70 ans. Comment en parlerons-nous dans 50 ans? Le continent glacé du pôle sud souffre du réchauffement climatique, mais dans quelle mesure? Dans un travail de prospective, une équipe de climatologues australiennes et françaises imagine l'état de l'Antarctique en 2070. Leur étude intitulée « Choisir le futur de l'Antarctique » est publiée dans la revue Nature cette semaine, Axel, et on en parle avec l'une des auteurs de cette étude.
Oui Daniel, nous sommes avec Valérie Masson-Delmotte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléoclimatologue pour le CEA, au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Nous sommes également en studio avec Lorraine Lavocat pour le magazine Reporter.net. Bonjour.
Bonjour.
Alors Valérie Masson-Delmotte, pardon, pour préparer et présenter ces résultats, vous avez choisi de placer le lecteur de la publication dans le futur, en 2070. Et vous avez donc choisi de parler des 50 années qui nous sépare de cette date au passé. C'est une figure de style, on en voit rarement dans les publications scientifiques. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix?
On a fait ce choix pour parvenir à mieux aborder les connaissances qu'on a de domaines différents. Parmi les auteurs de cet article, tous lauréats du prix Muse pour leurs recherches sur l'Antarctique, on a des spécialistes de la biologie marine, de la glaciologie, des écosystèmes autour de l'Antarctique, de l'océanographie. On avait deux choix, soit faire une revue habituelle, scientifique, explorer différents scénarios, soit avoir un style plus narratif. Et dans la préparation de cet article, finalement, on s'est placé au moment où nos enfants auront l'âge de nos parents, en 2070, pour regarder finalement à quel point les choix que l'on fait ou que l'on ne fait pas dans la décennie à venir conduisent à des évolutions extrêmement différentes, bien sûr, entachées d'incertitudes, mais se mettre dans deux points futurs et remonter les chaînes de conséquences permet de se baser sur les connaissances les plus récentes tout en les partageant avec tous.
J'ai envie de dire allons-y, alors plaçons-nous en 2070 dans le cas où le réchauffement climatique n'est pas contenu et partons en Antarctique. Qu'est-ce que nous voyons Valérie Masson-Delmotte?
Eh bien, on voit en fait le traité de l'Antarctique qui cède. Aujourd'hui, l'Antarctique est protégée comme une terre de paix et de science. Si on n'a pas un mode de développement durable qui est sobre en énergie, en particulier en énergie fossile, sobre en ressources, en pression sur les ressources, on va vers un réchauffement planétaire qui s'accélère en 2070, un niveau des mers qui accélère, avec une contribution qui devient de plus en plus importante de l'Antarctique. Un réchauffement en Antarctique qui le bouleverse les écosystèmes, un recul important de la glace de mer, de la banquise, mais aussi des plateformes de glace flottantes qui jouent le rôle de bouchons, qui empêchent l'écoulement des glaces accumulées sur le continent. Des eaux qui deviennent corrosives par rapport à la formation des coquilles, des petits animaux marins, des invasions biologiques 10 fois plus importantes qu'aujourd'hui, des salpes qui remplacent le krill, les petites crevettes qui sont aujourd'hui à la base de la chaîne alimentaire dans l'océan Austral, une présence humaine de plus en plus forte, une exploitation des ressources minières, une exploitation intensive en termes de pêche, et donc un monde en Antarctique, autour du continent le plus éloigné de nous, extrêmement différent de la situation actuelle.
Lorraine Lavocat.
Alors justement, Valérie Masson-Delmotte, vous parlez de ce qui se passera en 2070, mais une autre étude sur l'Antarctique est parue la semaine dernière aussi dans la revue Nature, qui parle de la situation de l'Antarctique aujourd'hui. On y apprend que depuis 2012, la fonte de l'Antarctique s'est accélérée d'un facteur 3 par rapport à la période 1992-2011. Alors, quelles sont les conséquences déjà visibles de cette accélération de la fonte des glaces?
Alors, l'Antarctique, c'est une terre de contraste. C'est un des endroits du monde où certaines régions se réchauffent le plus vite. C'est le cas de la péninsule Antarctique, la petite pointe qui est en dessous de l'Amérique du Sud. Mais c'est aussi un endroit où on a des changements de la structure des vents, du réchauffement des eaux de mer. Et donc, il semble que dans certains secteurs à l'ouest de l'Antarctique, on ait un écoulement qui s'accélère et donc qui fait que l'Antarctique, au lieu d'être à l'équilibre, c'est-à-dire un enneigement qui compense le fait de larguer des icebergs, est en train d'atteindre un déséquilibre croissant avec un écoulement qui accélère. C'est peut-être lié à l'amincissement des langues de glace flottantes du fait d'une fonte à l'interface avec l'océan sur lequel ces langues de glace flottent. C'est un résultat qui a surpris les équipes internationales qui ont mis en commun toutes les connaissances existantes par l'importance de cette accélération.
Valérie Masson-Delmotte, est-ce qu'on croit l'Arctique plus sensible que l'Antarctique ? Est-ce que c'est vrai ?
Alors peut-être, avant que vous répondiez, précisons la grande différence. Hein. L'Arctique, on est au pôle Nord, c'est de la glace qui flotte sur l'eau, on est sur de la banquise. Quand on est en Antarctique, côté pôle Sud, il y a un continent avec cette calotte glaciaire très impressionnante, des kilomètres de glace, d'épaisseur de glace sur ce continent. Donc effectivement, les scénarios sont un peu différents pour les deux pôles.
Alors ce qui est différent, c'est le fait qu'aujourd'hui, la région arctique fait l'objet d'une amplification du réchauffement. Il y est déjà 2 à 3 fois plus important qu'en moyenne planétaire. C'est dû en particulier au recul des zones recouvertes de neige, de banquise. C'est un des facteurs de cette amplification. Du côté de l'Antarctique, on a davantage d'inertie parce que c'est un continent couvert de glace, très froid et éloigné des autres régions du monde, séparé par un océan avec son inertie thermique. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est aujourd'hui un continent qui réagit. Qui réagit à la fois par, dans certaines régions, un réchauffement peut-être dû au recul de la couche d'ozone dans ce secteur. Mmh. C'est aussi un continent avec des écosystèmes particulièrement fragiles, iconiques, préservés. C'est une forme de patrimoine naturel pour toute l'humanité, cette biodiversité qui est exceptionnelle autour du continent et sur ses côtes. Et donc c'est un continent qui est vulnérable. Il est vulnérable parce que si on ne maîtrise pas le réchauffement climatique et donc les rejets de gaz à effet de serre, une des conséquences directes, c'est l'accumulation d'énergie dans les océans, donc dans l'océan Austral. Et donc même si aujourd'hui on n'a pas une amplification du réchauffement autour de l'Antarctique, une fois que ce réchauffement sera présent, du fait de la grande masse d'eau plus chaude qui va baigner les glaces autour du continent, on ne pourra plus revenir en arrière et on aura des changements irréversibles. Alors ces changements irréversibles peuvent toucher par exemple la perte de banquise, l'écoulement plus rapide de glace du continent qui dans ce cas-là ferait monter inéluctablement le niveau des mers de plusieurs dizaines de centimètres à la fin de ce siècle à plusieurs mètres dans les siècles suivants.
Merci Valérie Masson-Delmotte, il est donc grand temps d'agir. Concrètement, on peut encore agir hein. C'est le
message. La décennie à venir, elle est cruciale et elle est cruciale en termes de trajectoire de développement. Comme je le disais au début, c'est pas simplement une histoire d'émissions de gaz à effet de serre, c'est plus largement la pression qu'on va exercer sur les ressources, par exemple pour l'accès à des protéines marines dans cette région. Et c'est aussi l'éducation qu'on va donner aux jeunes générations. Parce que l'Antarctique aujourd'hui, c'est une terre de paix et de science parce qu'on a des précurseurs qui ont compris l'importance de protéger cette région et espérons que les jeunes générations d'aujourd'hui qui seront en situation de prendre des décisions en 2070 voudront toujours protéger cette région.
Merci à vous Valérie Masson-Delmotte. Allez, en 30 secondes, Lorraine Lavocat, qu'est-ce qu'on peut découvrir sur reporter.net cette semaine ?
Alors cette semaine, on vous propose d'aller voir Radio Bambou, qui est le magazine bimensuel de reporter pour les enfants de 7 à 77 ans. Et cette semaine, on va voir les araignées, puisque, savez-vous, un Français sur 4 a peur de cet ouais, animal.
J'aurais dit même plus, moi, vous voyez. Merci à vous, Lorraine Lavocat. C'est à découvrir donc sur reporter.net. Et Axel, à demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le centre de santé de l'Idaho aux États-Unis a annoncé la semaine dernière un cas de peste bubonique chez un enfant, une maladie qui n'avait pas été détectée depuis 26 ans. Connue en Europe sous le nom de peste noire, l'épidémie avait été particulièrement ravageuse au XIVe siècle en provoquant la disparition de plus d'un tiers de la population. Depuis, la médecine a identifié la cause, la bactérie Yersinia pestis qui se transmet principalement par les piqûres de moustiques. L'enfant en question a été traité aux antibiotiques et recouvre petit à petit la santé, le risque de décès étant largement réduit. Dans la nature, le bleu n'est pas toujours synonyme de calme. Une équipe franco-australienne a révélé le secret étonnant du lézard australien du genre Tilica pour se défendre face aux prédateurs. L'animal déploie sa langue bleue de 10 cm afin de les effrayer. Les couleurs ultraviolettes que perçoivent alors ses assaillants enclenchent chez eux une surcharge sensorielle qui les dissuade d'attaquer. N'essayez pas pour autant de tirer la langue à vos agresseurs. Sans les ultraviolets, il y a peu de chances que l'effet de surprise suffise à les faire fuir. Les paroles de Stephen Hawking nous avaient touchés de son vivant. Eh bien, elles continueront de résonner dans l'univers. En hommage au célèbre physicien anglais qui nous a quittés le 14 mars dernier, une bande-son de sa voix, recomposée en musique par le compositeur Vangelis, sera envoyée dans l'espace vers le trou noir le plus proche de la Terre. Un geste symbolique pour ce scientifique de renom qui a consacré sa vie à la compréhension de l'univers et plus particulièrement à celle des trous noirs.